Pour beaucoup, c'est le temps de la rentrée. Et une nouvelle année s'ouvre devant nous, Seigneur. Mais ce n'est pas une année toute neuve comme un cahier tout neuf. J'y entre avec ce que je suis, avec mes fragilités et mes ressources, mes pauvretés et les germes de tant de promesses. J'y entre avec toi qui m'attends déjà. J'y entre avec tous ceux et celles qui comptent pour moi et qui comptent sur moi. Seigneur, même si je ne sais pas de quoi sera faite cette année, malgré toutes mes envies et mes projets, je suis prêt à me laisser surprendre, prêt pour de nouvelles rencontres et de nouveaux défis. Et je te le demande, Seigneur, monte dans ma barque. Accompagne-moi, car avec toi, la nouveauté, l'imprévu, je peux les recevoir comme une lumière dans la fragilité de mes jours. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre premier cantique, le numéro 45, dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni vers lequel nous nous tournons ce matin pour rechercher auprès de lui force, paix et espérance. Amen. Quel plaisir de vous retrouver toutes et tous après ce temps d'été. Alors bienvenue, oui, bienvenue à vous tous. Nos fidèles paroissiens, bienvenue à vous qui êtes ici peut-être pour la première fois ou en visite, soyez tout particulièrement accueillis. Und es ist meine Freude, eine Gruppe von Österreich zu begrüßen. So herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Et le reste sera en français. Même si nous sommes très internationales aujourd'hui, avec des familles qui viennent d'Italie, d'Angleterre, de France, pour accompagner Aria et Elliot qui vont être baptisés. Alors oui, c'est mon plaisir d'accueillir Océane et Emiliano, qui ont demandé le baptême pour leur fille Aria. Alors je connais Océane depuis des années, puisqu'elle fut ma catéchumène à Chênes, et quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui et de faire la connaissance d'Emiliano. C'est tout à l'heure aussi le papa d'Océane, donc le grand-père, si vous suivez, qui fera la lecture. Michel, qui est depuis longtemps un fidèle serviteur de notre Église, notamment au consistoire. Emiliano est d'origine italienne catholique. Il est là avec toute sa famille et c'est un grand plaisir de vous accueillir tous. Il y a un seul baptême, un seul Seigneur. Soyez vraiment ici, chez vous, dans sa famille. Et puis, j'accueille Tiphaine et Richard, qui sont ici. Et Richard, lui, est d'origine anglo-saxonne, Tiphaine de France. Vous voyez, on est très international. Et Tiphaine, depuis quelque temps, permettez-moi de le dire, est engagé comme responsable du vestiaire au centre social protestant. Et c'est ce lien qui vous a fait, dans le fond, vous rapprocher de notre communauté pour demander le baptême pour Elliot. Alors, cela nous fait un immense plaisir. Alors que vous soyez catholique, protestant, anglican, orthodoxe, je crois que nous avons toutes les confessions réunies aujourd'hui dans cette assemblée. C'est un grand bonheur. Alors, bienvenue, benvenuti, willkommen, welcome, enfin, dans toutes les langues. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Et puis peut-être, alors comme nous sommes une communauté très, très bigarrée aujourd'hui, peut-être pouvons-nous nous prendre simplement le temps de saluer notre voisin, au moins pour se souhaiter la bienvenue et la paix du Seigneur ce matin. Bienvenue les uns aux autres. Et puis, puisque ce temps d'accueil ne suffira pas pour saluer tout le monde, nous aurons l'après-culte pour encore bien nous saluer. Vous ne perdez rien pour attendre. Souvenons-nous qu'il y a un seul baptême. Et si nous demandons le baptême, ce n'est pas par plaisir ou fantaisie ou tradition, mais parce que nous voulons répondre à l'invitation du Seigneur. Le baptême est le signe que le Seigneur nous offre pour manifester son amour inconditionnel et l'accueil qu'il nous réserve dans sa famille. Alors je vais maintenant inviter les familles qui vont nous dire le sens de leur démarche et la foi profonde qui les motive pour demander le baptême pour leur enfant. Et nous allons commencer par demander à Océane et Emiliano de venir nous dire le sens de leur démarche.
Aujourd'hui, nous avons décidé de faire baptiser notre fille Aria. Le Seigneur nous a confié cette petite fille, minuscule et fragile au regard brillant et profond. Il a fait de nous une famille et nous le remercions. Avant ma grossesse, nous nous sommes toujours demandé comment était-il possible d'aimer une personne, un être, sans jamais l'avoir vu. Et puis, je suis tombée enceinte. Nous avons senti la présence de ce petit être comme nous avons pu sentir celle de Dieu tout au long de notre vie. Et la réponse à notre question nous est apparue. Nous n'avons pas besoin de voir pour aimer, il nous suffit juste de croire, d'imaginer et de sentir une présence.
Nous souhaitons qu'Aria ressente tout cela, qu'elle puisse trouver une présence chaque fois que nous serons contraints de lâcher sa main, qu'elle trouve en elle et en le Seigneur les chemins de l'amour et de la compassion. C'est pourquoi aujourd'hui nous la conduisons dans cette maison pour qu'elle soit baptisée. Elle nous quitte un peu pour entrer dans une famille aux dimensions du monde. Et petit à petit, elle prendra ses distances pour qu'elle, seule, avec au cœur la mémoire d'une présence, puisse continuer à tracer sur la page blanche les traits de son avenir et du nôtre.
Quelle belle déclaration de foi et qui, je crois, pourra bien résonner avec le texte du jour que j'ai choisi avant d'entendre cette déclaration. Merci beaucoup. J'invite maintenant Tiphaine et Richard.
Bonjour. Je souhaiterais parler pour Tiffen et moi-même qu'il est très important pour nous de pouvoir baptiser notre fils, vu que nous partageons tous les deux une foi. Nous croyons tous les deux en Dieu. Nous souhaitons que notre fils soit élevé aussi dans la foi. Et nous sommes ravis d'être ici pour partager ça avec toute la communauté, nos amis, nos familles. Donc, merci beaucoup d'être là. À travers
ce baptême,
nous souhaitons partager avec toi, Elliot, notre foi en Dieu pour t'accompagner dans ta vie et que tu trouves la communauté chrétienne une famille qui te guidera et te soutiendra.
Merci beaucoup. Et je propose que pour faire écho à cette déclaration, nous demandions maintenant à la marraine et aux parrains d'Eliott qui ont préparé un texte de venir les dire. Ils compléteront magnifiquement cette déclaration. Ces deux textes, l'un en... C'est les marraines, pardon. C'est l'un en français et l'autre en anglais.
Alors, on va vous lire un poème par Rudyard Kipling. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowances for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same,
if you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn-out tools. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distant run, yours is the earth and everything that's in it, and, which is more, you'll be a man, my son.
Tout le monde n'aura peut-être pas tout compris, mais c'est un texte qui a une grande profondeur et une signification pour la famille d'Eliott, et c'était important de pouvoir le lire aujourd'hui. Et je crois qu'il y a encore un texte des parrains, un beau texte aussi, qui nous conduira dans la prière.
Bonjour. On va vous lire un texte de Thérèse de Calcutta. La vie est une chance.
Saisis-la.
La vie est beauté.
Admire-la.
La vie est béatitude.
Savoure-la.
La vie est un rêve.
Fais-en une réalité.
La vie est un défi.
Fais-lui face.
La vie est un devoir.
Accomplis-le.
La vie est un jeu.
Joue-la.
La vie est précieuse.
Prends-en soin.
La vie est une richesse.
Conserve-la.
La vie est amour.
Jouis-en.
La vie est mystère.
Perce-le.
La vie est promesse.
Remplis-la.
La vie est tristesse.
Surmonte-la.
La vie est un hymne.
Chante-la.
La vie est combat.
Accepte-le.
La vie est aventure.
Ose-la.
La vie est bonheur.
Mérite-le.
La vie est la vie.
Défends-la.
Et à ces beaux engagements de foi des parents magnifiques, nous voulons répondre par notre propre foi et montrer à quel point nous sommes ensemble engagés dans cette aventure. Nous le faisons en chantant le cantique 144.
Oh,
Seigneur, avant notre naissance, tu nous aimais déjà. Avant que nous te cherchions, tu nous connaissais déjà. Et notre baptême est le signe de ton amour. Par lui, notre vie contient une promesse et notre histoire possède une espérance. Alors oui, je te prie pour Aria et Elliot et leur famille. Accompagne-les et donne-leur chaque jour la force et l'amour dont ils auront besoin. Nous te prions, Père très saint, envoie maintenant ton esprit de lumière et de vie. De cette eau toute simple, tu fais naître le peuple qui t'appartient. Accueille dans ton alliance Aria et Elliot qui vont être baptisés, qu'avec le Christ, ils deviennent par lui une nouvelle créature. Nous t'en prions par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et j'invite alors, on va commencer par Aria, ses parents et marraines, à venir s'approcher. Quel nom lui avez-vous donné? Quel nom lui avez-vous donné?
Aria.
Aria sera désormais son nom de baptême. Aria, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Tu peux aller dans la paix, le Seigneur t'aime d'un amour infini. Il te connaît et te garde dans son amour. Va dans sa paix. Amen. Et j'invite la famille d'Eliott à s'approcher. Les parrains marraines aussi. Quel nom lui avez-vous donné?
Eliott James.
Eliott James sera désormais son nom de baptême.
Tu viens avec moi ici?
Les garçons, ça me connaît moins, quand même.
Eliott, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Le Seigneur t'aime d'un amour infini. Aujourd'hui, tu ne le sais pas encore, mais tu auras toute ta vie pour le découvrir. Aujourd'hui, Aria et Eliott sont dans cette communauté, c'est leur famille spirituelle. Aucune contrainte ne les y retiendront. Et s'ils venaient à la quitter, leur place y demeurerait gravée à jamais. Chers parents, parrains, marraines, vous vous engagez aujourd'hui à partager avec vos enfants les valeurs essentielles de la foi chrétienne, la découverte de la Bible, la pratique de la prière, des chants, du culte, afin que Aria et Eliott puissent répondre un jour par eux-mêmes à la proclamation qui leur a été faite de l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Alors, vous, les parents, parrains et marraines d'Aria et Eliott, est-ce bien ce à quoi vous voulez vous engager aujourd'hui devant Dieu? Le Seigneur vous entend. Et nous en sommes tous témoins. Et pour vous aider dans ce souvenir et pour faire découvrir les joies du baptême à vos enfants, nous allons vous remettre maintenant cette bougie que vous pourrez éclairer aux anniversaires civils ou de baptême.
Alors, à qui je la remets? À la maman, pour commencer. Voilà, c'est maman. Voilà. Et je vous invite à regarder.
Et pour dire notre reconnaissance, nous chantons au cantique 221, les strophes 1 et 3. Et avant d'entendre la parole de Dieu, recueillons-nous encore un instant dans la prière. Ô Seigneur, j'aimerais te dire ma joie de te savoir à mes côtés. Dans ma barque, tu as pris place. Tu m'accompagnes dans tous les méandres de ma vie et tu m'offres ta présence. Mais qu'elle est difficile à saisir. Parfois, tu sembles absent comme endormi. Quand les jours se font sombres, quand les nuages s'amoncellent, quand la tempête fait rage, alors j'ai bien du mal à t'entendre, à discerner ta présence, et je m'enferme sur moi-même. Mais voilà qu'au détour d'une bourrasque, un regard, un sourire, une parole, et tu es là. Alors puissent ces baptêmes célébrés et ta parole que nous allons entendre nous rappeler combien tu ne veux jamais être un Dieu distant ou distrait. Oui, Seigneur, ouvre nos cœurs à l'écoute de ta parole, et nous sentirons la douce chaleur de ta présence au plus profond de notre être. Amen.
Lecture dans Matthieu 8. Il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Et voici qu'il y eut sur la mer une grande tempête, au point que la barque allait être recouverte par les vagues. Lui, cependant, dormait. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, au secours, nous périssons. » Il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi ? » Alors, debout, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les hommes s'émerveillèrent et ils disaient : « Quel est-il celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?»
Thank you.
Lecture dans l'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Plus loin, toujours dans l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je vous invite maintenant à prendre dans le cantique au 399 les strophes 1 et 2.
Je crois qu'il y a bien quelque chose au-dessus de moi. Souvent, nous entendons cette phrase. Peut-être même l'avons-nous nous-mêmes utilisée. Rien de mal à cela, bien au contraire. C'est la première démarche, le premier pas vers la reconnaissance que l'être humain n'est pas tout. Premier pas vers la reconnaissance de l'existence de Dieu. Il y a quelque chose au-dessus de moi. Et du reste, lorsque nous prions la prière que le Seigneur nous a enseignée, le Notre Père, eh bien, nous commençons par nous adresser à Dieu qui est au ciel. Confesser le Dieu qui est au ciel, c'est affirmer que Dieu nous dépasse, qu'on ne peut le tenir enfermé, pas même dans l'idée ou les représentations que nous nous faisons de lui. Mais si l'on se contente d'admettre Dieu, de reconnaître Dieu comme une force supérieure, ne risque-t-on pas de faire de Dieu un être finalement assez lointain, impersonnel, un Dieu si éloigné et diffus là-haut que finalement sa force en devient presque inopérante, lui là-haut et nous là en bas, dans notre réalité. Et nous tous qui sommes réunis dans cette cathédrale ce matin, eh bien, nous formons, je l'ai dit, une communauté très, très éparse, mélangée, bigarrée, de par nos cultures, nos langues, nos confessions, ce que nous vivons, notre âge. Mais en fait, nous sommes unis par une forme de recherche. Nous sommes tous, ce matin, nous avons tous ce point commun que d'une manière ou d'une autre, nous cherchons Dieu. Et peut-être même que certains ont le sentiment de l'avoir trouvé, ou du moins d'avoir pu vivre cette expérience dans des moments de grâce, de nous sentir dans une communion très étroite avec Dieu. Mais la présence de Dieu, c'est comme l'eau qui coule entre nos mains. Nous ne pouvons la garder, la retenir. Être croyant, c'est donc être chercheur. J'ai envie de dire d'être un chercheur qui ne peut jamais être pleinement comblé et satisfait. Et c'est un peu frustrant. Et Emmanuel, mon collègue, l'a rappelé la semaine dernière, être croyant, ce n'est pas une posture de confort. Ce n'est pas quelque chose de facile ou de confortable. Cette quête, finalement, n'est jamais comblée. Il faut constamment demeurer en travail, curieux, attentif, en alerte. À l'ascension, aux disciples qui restent les yeux rivés vers le ciel, l'ange les invite à retourner à leur réalité, à leur vie ordinaire, car c'est là, dans votre vie ordinaire, qu'il vous attend, celui que vous cherchez au ciel. On aurait tort donc de chercher Dieu au ciel. Ce sont quelques propriétaires de sagesse qui l'ont, pour ainsi dire, éloigné ainsi pour mieux asseoir leur autorité. En Christ, Dieu est né sur la terre. Et c'est bien parce qu'il voulait établir sa demeure parmi les vivants. Alors j'ai envie de dire que je suis d'accord avec le premier cosmonaute soviétique qui a fait un vol spatial, Yuri Gagarin, qui disait que Dieu n'était pas au ciel. Oui, parce qu'il ne l'avait pas vu quand il était monté dans sa fusée. Et je suis assez d'accord avec lui, car Dieu n'est pas au ciel, certes, mais c'est parce qu'il est sur la terre, là, incognito, discret, caché. Et c'est là, au creux de notre vie, qu'il faut partir à sa recherche. Et pour poursuivre dans les citations de cosmonautes ou d'astronautes, James Irwin, un des 12 hommes à avoir marché sur la Lune, a dit « Le plus grand miracle, ce n'est pas que l'homme ait pu marcher sur la Lune, c'est que Dieu ait marché sur la Terre. » Très souvent, finalement, la démarche spirituelle tend à proposer à l'être humain de s'élever vers un monde spirituel, comme s'il y avait le monde terrestre et puis le monde de Dieu qui serait plus haut, qui nous permettrait de prendre de la distance par rapport à notre réalité, nos difficultés, notre réalité mondaine. Mais tout cela n'est qu'illusion et vent. Cette tentative de grimper s'apparente un peu à ce mythe où, vous savez, où on voit le fakir lancer sa corde en l'air et grimper. Cela n'est pas possible. Mortels nous sommes, humains nous sommes, terriens nous sommes. Et c'est là, dans notre réalité, dans nos faiblesses, de nos limites, que nous devons vivre, agir. Mais c'est aussi là que nous devons chercher Dieu. Dieu n'attend jamais que nous grimpions à lui. Le Dieu que nous confessons n'est pas un Dieu qui est resté là-haut, dans sa majesté solitaire. Mais on le voit dès le début, dès la première page de la Bible, on voit un Dieu qui est épris de l'humanité, qui cherche la relation avec l'être humain dans l'histoire d'Adam et Ève. Et on le voit tout au long de l'histoire biblique. Combien Dieu, c'est un Dieu qui non seulement aime les humains, mais vient à leur rencontre. Un Dieu qui ne se suffit pas en quelque sorte à lui-même. Un Dieu qui nous prend, reprend, surprend. À l'image des baptêmes célébrés ce matin, un Dieu qui fait alliance. Alors à la question La question qu'on peut se poser, finalement, est aussi celle de notre marge de manœuvre, de notre liberté. Parce que nous vivons dans une société qui tend à vouloir construire notre réalité humaine autour de cette pensée que l'être humain peut tout et en quelque sorte que l'être humain se suffit à lui-même. Et c'est vrai que notre société essaye de nous faire croire qu'on va pouvoir se débrouiller tout seul, qu'il va falloir gagner en indépendance pour pouvoir véritablement être épanoui. Il ne faut rien devoir à personne. Il faut pouvoir se débrouiller seul. Cela n'est pas tout faux. C'est du reste un des buts de l'éducation des parents, de permettre à leur enfant de devenir indépendant. En quelque sorte, cet enfant vous est prêté et il va devoir grandir en indépendance. Et heureusement, car si les enfants restent arrimés à leurs parents toute leur vie, ça ne va pas non plus. Il faut gagner donc en indépendance. Mais de là à penser qu'on va pouvoir construire sa vie sur ses seules compétences, ses forces ou sa volonté, il y a une grande différence. Et je le vois dans le ministère. Combien souvent je rencontre des gens qui ont eu cette volonté finalement de vouloir en quelque sorte par eux-mêmes donner du sens, tout leur sens à leur vie. Mais un jour, un grain de sable vient déranger cette belle mécanique. Ce peut être une maladie, un deuil, un échec professionnel ou conjugal, et tout ce sur quoi reposait notre vie finalement s'effrite. Et ces tempêtes-là, nous en affrontons tous, des plus ou moins violentes, et nous mesurons alors à quel point nos moyens sont parfois limités et nos compétences ne suffisent plus. Et j'aime ce récit de la tempête apaisée où l'on voit les disciples ramer, c'est le cas de dire, ramés contre les vents contraires. Ils y mettent non seulement toute leur force, mais aussi toute leur compétence pour arriver à affronter cette tempête. Mais ils doivent bien se rendre compte, se rendre à l'évidence que seuls, ils n'y arrivent pas et que leur vie est menacée. Ils ont besoin de l'aide du Christ pour affronter cette tempête. Et c'est là qu'ils mesurent que leur vie ne peut pas reposer que sur leur seule compétence ou leur bon vouloir, mais qu'elle est aussi et d'abord entre les mains du Seigneur. Dans tout parcours de foi, c'est là une question fondamentale. C'est peut-être la première question qu'il faut résoudre pour se mettre dans une position où l'on va pouvoir se rendre réceptif à l'amour de Dieu. Suis-je mon propre maître ? Autrement dit, puis-je me débrouiller tout seul ? Ou ma vie repose-t-elle sur un fondement qui me précède et me dépasse ? Lorsque Jésus dit, dans cette phrase célèbre de la Bible qu'on a entendue ce matin, « Je suis l'alpha et l'oméga », c'est bien de cela qu'il parle. Il y a quelque chose qui précède ma vie et il y a quelque chose qui la dépasse. Je ne suis pas mon propre fondement. Ma vie s'inscrit dans quelque chose de plus large. Et chercher Dieu, ce n'est donc pas vouloir s'élever au-dessus de notre réalité, mais reconnaître qu'au cœur même de ma vie, Dieu se cache, Dieu est présent, et que c'est là, dans ma réalité, que je dois le chercher. Et cela me fait penser à cette femme que j'ai rencontrée il y a peu de temps, qui à l'âge adulte avait pris ses distances par rapport à l'Église, à l'Évangile, mais avait une vraie soif, une vraie quête spirituelle. Son besoin de paix l'a incitée à aller chercher toute sa vie, toutes sortes de lieux de spiritualité allant jusqu'à l'autre bout du monde pour suivre tel cours, tel enseignement ou rencontrer tel maître de sagesse. Et finalement, après tout ce parcours de vie, elle a redécouvert l'Évangile et dans l'Évangile la proximité de Dieu. Et elle me disait, finalement, j'ai cherché Dieu très loin, alors qu'il était juste là, à côté de moi. Il n'y a qu'à ouvrir l'Évangile. J'aime beaucoup l'image de Dieu que donne le récit de la tempête apaisée. Il est présent avec ses disciples dans la barque, au beau milieu de la tempête. On aurait pu imaginer Jésus qui est resté sur la berge et qui regarde les disciples se débrouiller avec une longue vue, et qui, dans le fond, les teste en quelque sorte pour savoir comment ils allaient se débrouiller tout seuls face à la tempête. Mais non, il, si vous me permettez ce jeu de mots, il se mouille avec eux. Et cela révèle bien combien Dieu n'est pas un Dieu distant ou distrait, un Dieu indifférent à notre sort. Mais cela révèle au contraire un Dieu présent et engagé au cœur même de notre réalité. Et la barque, pour les premiers chrétiens, c'est le symbole même de l'Église. On le trouve encore dans, par exemple, le logo du Conseil œcuménique des Églises. Vous voyez la barque comme signe de l'Église. Mais la barque, c'est aussi l'image de notre vie. Hein, ce symbole de notre vie, de toute vie qui nous mène et qui doit parfois traverser des tempêtes si violentes que nous n'arrivons plus seuls à garder le cap. Et là, croire qu'il y a quelque chose au-dessus de nous risque de ne pas suffire. Croire, c'est avoir cette confiance que Dieu n'est pas seulement là-haut, mais qu'il est engagé à mes côtés, dans mon aventure humaine. Et c'est exactement ce que nous avons symboliquement manifesté avec les baptêmes d'Aria et d'Eliot. Et ce sera à Aria et à Eliot, comme c'est le cas pour nous, de découvrir au fil de leur existence cette proximité aimante de Dieu. Mais comme les disciples confrontés à la tempête ne comprennent pas Jésus, ou plutôt s'étonnent de son apparente passivité, indifférence ou insouciance. Nous aussi, nous avons souvent l'impression que Dieu est loin, que Dieu nous a oubliés ou abandonnés, ou qu'il a trop d'autres soucis à traiter pour s'occuper de ma réalité humaine et qu'il est un peu indifférent à mon sort. Mais Dieu nous fait cette promesse en Christ. Dieu fait alliance avec l'humanité et chacune et chacun d'entre nous. Dieu n'est jamais indifférent à notre sort. Il est là au cœur de toute vie, à nous, à partir à sa recherche. Non pas en levant les yeux au ciel, mais en regardant au fond de notre barque. Alors je vous le concède volontiers. Chercher Dieu n'est jamais facile et le trouver encore plus difficile. Mais croire, c'est précisément avoir cette confiance que ce n'est pas parce que je ne le vois pas que Dieu n'est pas présent. Croire, c'est donc être constamment en alerte pour discerner les signes de cette discrète et aimante présence de Dieu au creux de ma vie. Croire, c'est donc descendre au plus profond de soi pour y découvrir combien Dieu a déjà fait de ma vie sa demeure. Croire, ce n'est finalement pas tant chercher Dieu, mais avoir cette confiance que c'est Dieu qui nous a trouvés. Je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur dans ce beau texte de l'Apocalypse. Un Dieu qui ne cesse donc de venir à notre rencontre, de venir jusqu'à la porte de notre vie. Et il ne la fracasse pas pour entrer de force dans notre vie, mais il frappe à notre porte. Et si nous ne sommes pas à l'écoute, alors nous risquons de ne pas l'entendre. J'aime ce verset parce qu'il montre combien Dieu est ce Dieu qui fait un grand chemin pour venir jusqu'à nous, jusqu'à notre porte. Mais nous avons ce petit pas à faire, car si nous restons dans notre canapé, bien assis, et que nous ne nous levons pas pour aller lui ouvrir la porte, la rencontre n'aura peut-être pas lieu, malgré la proximité de Dieu qui a fait ce chemin pour venir jusqu'à nous. Alors nous n'avons pas le choix d'être aimés par Dieu. Nous n'avons pas le choix de laisser Dieu nous approcher. Car Dieu se tient tout proche sans pour autant forcer notre porte. Mais c'est notre responsabilité et aussi notre liberté de lui ouvrir ou non la porte pour que sa présence puisse pleinement bénir notre vie et que nous puissions alors affronter tout ce que la vie nous réserve de beau ou de difficile, de temps calme ou de tempête, avec cette confiance absolue que Dieu est engagé avec moi et qu'il est monté dans ma barque. Amen. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, oui, nous tous qui sommes rassemblés ce matin dans cette cathédrale, nous sommes venus avec ce que nous sommes, ce que nous avons à affronter. Et, Seigneur, tu nous connais. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, nous pouvons nous connaître. Et tu sais donc quelles sont nos attentes ou nos besoins ou nos blessures profondes. Alors, Seigneur, ce n'est pas à nous à en égrener la liste. Tu nous connais, Seigneur. Et nous te le demandons, viens vraiment nous rejoindre, ou plutôt, ouvre notre cœur pour que nous puissions sentir déjà combien tu es présent parmi nous, et combien tu connais nos difficultés et nos soucis, et combien nos soucis sont aussi les tiens, combien nos douleurs sont aussi les tiennes. Mais Seigneur, donne-nous aussi d'être nous-mêmes attentifs les uns aux autres, comme toi tu es attentif à nous, pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Et c'est dans cet esprit que nous t'adressons notre prière, non pas tant pour te rappeler ce que tu devrais faire, mais pour qu'ensemble nous puissions former cette famille, cette communion, placée sous ton regard et ton esprit. Alors aujourd'hui, nous te prions bien sûr pour Aria et Elliot et leur famille, mais nous te prions aussi pour toutes les familles qui vivent des des moments heureux ou des moments plus difficiles. Seigneur, nous te prions aussi pour tous les enfants, tous les jeunes qui ont repris cette semaine le chemin de l'école. Puisse cette année être une année de découverte pour chacune et chacun. Et nous te prions en particulier pour tous ceux qui, pour tous leurs professeurs, les maîtres, maîtresses d'école. Seigneur, bénis-les dans leur travail d'éducation. Nous te prions aussi pour notre Église, Seigneur, et pour nos communautés sœurs, ici à Genève, comme au loin. Donne-nous d'être des témoins joyeux de ton Évangile, conscients de la chance que nous avons de te savoir engagé avec nous. Et Seigneur, permets-moi de te remettre tout particulièrement les frères et sœurs réunis ce matin à Goma, en République démocratique du Congo, avec qui j'ai partagé une partie de l'été, qui vivent un temps particulièrement difficile. Et nous voulons être en communion de prière avec ces frères et sœurs. Nous te prions avec toutes celles et ceux qui doivent affronter des temps difficiles, les communautés qui doivent affronter l'injustice, l'oppression, la violence, la guerre. Nous voulons avoir une pensée particulière pour les chrétiens de Hong Kong aujourd'hui et de tant de lieux où la liberté n'est pas garantie. Enfin, Seigneur, nous voulons t'adresser notre prière pour celles et ceux que nous aimons, qui nous tiennent particulièrement à cœur et que nous te nommons dans le secret de notre cœur. Et toutes nos prières, Seigneur, nous les réunissons dans celle que tu nous as enseignée, qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Permettez-moi de faire quelques annonces cette fin de culte. Il y a évidemment beaucoup, beaucoup d'annonces en ce début d'année, car tous les groupes et les activités reprennent. Vous aurez vu peut-être à l'entrée qu'il y a des papillons qui annoncent toutes ces activités. Ça va vraiment de l'éveil à la fois pour les tout-petits, il y a des groupes pour les enfants, il y a aussi un nouveau groupe pour les jeunes du cycle qu'on a mis en route, il y a évidemment les groupes de jeunes et des catéchumènes, les groupes de post-catéchumènes, les groupes pour les adultes avec des partages bibliques, une fameuse traversée de la Bible ou d'autres, l'étude d'une épître. Il y a des moments musicaux qui ont été préparés par Vincent tout spécialement pour découvrir l'orgue et différentes œuvres célèbres. Alors, il y a évidemment l'ensemble des célébrations que nous avons aussi tous les dimanches matin, mais aussi très régulièrement le dimanche soir avec une série avec de la musique classique, des chœurs, et une série plus avec du gospel et des témoignages. Et puis bien sûr également les cultes du jeudi midi, tous les jeudis midi. On commencera après le jeûne genevois dans 15 jours. Donc tous les jeudis à midi et demi, une demi-heure de silence et de partage autour de la parole de Dieu. Un magnifique programme. Vous avez toutes les informations dans le Saint-Pierre Info qui se trouve à la sortie, en plus de tous les papillons que vous pouvez prendre qui sont spécifiques à chacune des activités. Nous publions chaque semaine, chaque vendredi, une feuille qui indique toutes les activités à venir. Beaucoup la reçoivent automatiquement par mail. Si vous souhaitez la recevoir régulièrement, laissez vos coordonnées dans la boîte bleue qui se trouve à l'entrée. Il y a même des stylos qui devraient marcher. Vous laissez vos coordonnées et vous recevez ainsi régulièrement les informations de notre paroisse. Vous dire encore que cette semaine, eh bien, c'est la semaine du jeûne genevois et que nous aurons la joie d'entendre le modérateur présider le culte du jeûne genevois, le pasteur Blaise Monnu, ce jeudi, jeûne genevois, jour de la tarte au pruneau, à 6 heures, ici même, à 6 heures. Il y a peut-être eu un petit peu de confusion sur l'heure, mais c'est bien. 6 heures, ici même. Dimanche prochain, nous aurons la chance, c'est Emmanuel Roland qui présidera le culte, mais c'est, je crois, surtout Sandrine Landau qui assumera la prédication de notre pasteur stagiaire, très remarquable, et on se réjouit de l'entendre. Voilà, et puis bien sûr, un immense merci à toute l'équipe qui a préparé l'après-culte. Un grand, grand merci à votre fidèle contribution. Ce sera une joie pour nous tous de nous retrouver sur le parvis pour l'après-culte. Mais maintenant, c'est le temps de l'offrande, un moment aussi important qui témoigne de notre engagement pour la vie de l'Église, de notre paroisse en particulier. Alors, je vous invite à donner avec générosité pendant que nous chantons le cantique 370. Seigneur Dieu, toi qui n'as pas voulu rester enfermé au ciel, mais qui nous a rejoints au cœur de notre humanité, nous te le demandons. Déploie devant nos yeux qui doutent et nos cœurs qui hésitent les signes de ta présence. Puisse-t-il éclairer notre obscurité et apaiser toute tempête. En ce début d'année, au moment où beaucoup de choses recommencent, nous te le demandons, accompagne-nous dans tout ce que nous avons à vivre, d'heureux ou de plus difficile. Oui, nous te le demandons, augmente notre foi, notre espérance et notre amour. Et nous te le demandons, que ta bénédiction nous garde. Oui, que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise. Oui, que l'amour de Dieu notre Père, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Oui, nous pouvons aller avec cette bénédiction que le Seigneur s'est engagé dans notre aventure. Nous pouvons aller avec cette bénédiction que le Seigneur est monté dans notre barque. Allons avec l'assurance que le Seigneur est là, tout proche de nous, et qu'il nous bénit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à prendre place pour entendre le dernier jeu d'orgue.